trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibout est avec nous, le responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Franck Dixmé nous accompagne également. Bonsoir Franck.
Bonsoir Grégoire.
Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors et Valérie Gastaldi est également à nos côtés. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Day by Day. C'est la question que j'ai mise à la une puisque c'est vrai que depuis quelques jours, on est en train d'effacer au moins en partie le rebond du mois de mai. Je le disais, tous les indices ne consolident pas la même vitesse. C'est vrai que le CAC peut être un peu plus lourd que d'autres indices, puisqu'on est proche de revisiter à Paris, en tout cas, les points bas du mois d'avril, autour des 7900 points pour l'indice parisien. Est-ce que les marchés sont toujours dans une phase de consolidation un peu latérale, comme on dit, ou est-ce qu'on est parti sur une pente peut-être un peu plus glissante, voire dangereuse à court terme, Valérie ?
Alors, glissante en Europe, oui, on dirait que cette pente est un petit peu glissante, en effet. Il y a des destins variés, comme vous l'avez souligné, mais enfin, si on regarde le Stock 600, qui a réussi à rejoindre de nouveaux sommets, on va avoir la clôture de la semaine demain.
Fin de mois, fin de semaine, etc.
Voilà, donc une clôture relativement importante. Peut-être qu'il y a eu un petit peu d'emballement la semaine dernière à remonter les expositions à un fin mai, parce que pour beaucoup de gens qui traitent une fois par mois et qui vont donc essayer, enfin une fois par mois, pas forcément sur... peu souvent, hein. Peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, la période de risque classique qui est celle du mois de mai, elle est derrière nous, le marché a bien tenu, donc... Il y a sans doute pas mal de gens qui sont un petit peu en retard sur leurs expositions, en tout cas sur les valeurs européennes. Donc, un petit mouvement pour remonter ces expositions en Europe. Sans doute, c'est ce que l'on a eu. Et du coup, on pourrait avoir un début du mois de juin un petit peu plus... encore un peu mou.
Des mains un peu faibles qui se feraient prendre à contre-pied, là, sur les dernières séances.
Oui, des gens qui suivent les indices parce qu'ils doivent doivent les suivre.
Parce que c'est leur métier, oui.
Avec peu de... c'est pas des achats de conviction. Voilà, on a eu très peu de volume, d'ailleurs, dans l'ensemble ces derniers jours sur les actions. À quel point est-ce que ça peut être grave ? Je sais pas, parce que ça va aussi dépendre des États-Unis qui, pour le moment, ne donnent pas trop de signes de faiblesse. Bon, mais ça peut arriver dans la soirée ou très vite, hein, c'est du court terme. Donc, soit en Europe, on arrive à se limiter à perdre 1,5%, soit la marche en dessous, c'est du 4-5% qui nous reste à perdre. Mais moi, je ne pense pas que ça aille beaucoup au-delà de ça. Donc, au regard de ce que l'on a fait comme parcours depuis la fin du mois d'octobre dernier, moi, j'appelle ça une petite consolidation dans une tendance haussière.
Ouais. Si on remet les choses en perspective.
Après, chacun la qualifiera comme il voudra.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai que c'est bien de remettre le mouvement de fonds en perspective.
Bah,
on a repris 25-30% sur les indices depuis fin octobre, début novembre. Hein. Voilà.
Ouais, absolument. Donc voilà, donc il faut le remettre en perspective de ce qui avait été fait comme parcours haussier.
Bon, Gilles, sur les actions, notamment, et européennes en particulier, que vous inspire ce petit sell-in May un peu tardif, là?
Je crois qu'on est toujours dans cet arbitrage entre... l'attente du mouvement sur les taux qu'on attend en réalité depuis maintenant plus de 3 mois et qu'on ne cesse de repousser. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a une petite nervosité, une petite tension sur les taux, on a des marchés qui rebaissent. Alors la bonne nouvelle sur cette tension, de la tension sur les taux, c'est qu'en partie, elle est liée à la bonne tenue de l'économie. Et ce qu'on a vu après les résultats du premier trimestre, c'est que là où en Europe, on avait commencé à avoir une révision à la baisse des attentes de résultats, en réalité, après les résultats du premier trimestre, on a eu une révision à la hausse. Alors, on n'est pas revenu tout à fait sur le niveau début d'année, mais on a eu une inflexion positive. Et c'est véritablement après les publications qu'on a eu un marché qui s'est un peu repris, on va dire, porté par ces améliorations de résultats et par des indices PMI qui, en Europe, ont quand même surpris à la hausse. Et les indices PMI, c'est souvent un indicateur avancé de la direction des résultats à venir.
Ouais.
Donc on avait d'un côté le côté fondamental, les résultats qui sont en train de s'améliorer, et de l'autre côté, c'est les taux qui ne baissent pas et donc qui ne permettent pas une expansion du multiple. Et donc aujourd'hui, la question qu'on doit se poser, c'est pour justifier les niveaux de valorisation qui sont maintenant passés très légèrement au-dessus des moyennes de long terme, Bah, il faudrait quand même une amélioration des résultats bien meilleure pour pouvoir justifier une hausse ultérieure. Donc là, on est à court terme, un peu plus piloté par ce qui va se passer sur les taux. Donc on est un peu... quoi, on n'est pas tellement surpris d'avoir cette période un peu de stagnation, d'observation, parce qu'en fait, on est quand même entouré par l'incertitude. Oui, la macro va bien, mais on voit quand même des signes ici ou là de faiblesse. La conso américaine est bonne, mais on s'aperçoit que les chiffres en volume sur la consommation, alors pas des ultra riches, mais de tous les autres, elle est quand même en train un petit peu de se détériorer. Mmh. On l'a vu avec les chiffres de Starbucks, on voit les incidents sur les cartes de paiement qui se multiplient. Donc,
Les volumes dans les grandes les Walmart, les Target, etc. Alors, il y a des destins divers, comme disait, en fonction de chaque entreprise. Mais il y a quand même plutôt l'idée que les chiffres d'affaires ont atteint, j'allais dire, un niveau un peu topiche. Quoi, et
hier,
les chiffres d'affaires sont plutôt
on avait les volumes
orientés à la baisse
de aujourd'hui. Des produits de grande consommation. Dans l'ensemble, les volumes, ils étaient pas tellement à la hausse. Ils étaient même plutôt en baisse. Alors, on montait grâce au prix. Mais donc, on a quand même une situation qui mérite pas de s'emballer compte tenu des valorisations actuelles. Mmh. Et donc, ça ne nous surprend pas. Comme toujours, il y a des endroits dans le marché sur lesquels on peut trouver des opportunités. Mais il n'y a pas non plus de quoi être complètement euphorique.
Ouais,
l'Europe, elle a monté aussi parce qu'elle était très sous-pondérée dans les portefeuilles. Et du coup, effectivement, il y avait sans doute, elle a surpris à la hausse compte tenu de la qualité des résultats. Et du coup, effectivement, il y avait sans doute matière à remonter un petit peu les expositions.
Bon, comme le faisait remarquer Gilles, effectivement, il y a toujours l'histoire des marchés obligataires et des marchés de taux drivés par les éléments de politique monétaire, entre autres. Et de ce point de vue-là, le 10 ans américain, qui reste notre référence mondiale, revient à 10 BP près, en tout cas sur les sommets qu'on a connus au cours du mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, près de 4,70. Enfin, on est à 4,60, mais le sommet était à 4,70. Qu'est-ce qui explique qu'on revienne là, comme ça, sur ces sommets-là, partant des taux américains, en l'occurrence, et de la diffusion que ça peut générer ? Franck ?
On sonne un peu comme un disque rayé sur les taux, puisqu'on raconte toujours la même histoire depuis maintenant 6 mois. On est dans une phase toujours de correction, d'anticipation très excessive de baisse de taux. Donc à la fin de l'année 2023, on avait jusqu'à 7 baisses de taux de 25 BP qui étaient pricées aux États-Unis. Donc oui, on était quand même sur des anticipations extrêmement optimistes, mais qui relayaient aussi l'optimisme communiqué par les banquiers centraux, et notamment Jay Powell. Donc on était après ce fameux point d'inflexion sur la politique monétaire, et on s'est précipité tête baissée dans l'autre phase à venir du cycle monétaire, qui est une phase de détente. Malheureusement, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce que l'inflation, notamment aux États-Unis, n'a pas cessé de surprendre à la hausse.
C'est vrai.
Et ça, c'est le facteur clé, en fait. L'inflation sur les services, qui est toujours très élevée. L'inflation sur l'immobilier, qui contribue à nourrir l'inflation cœur. Et une grosse incertitude de la part des investisseurs, qui ont donc massivement révisé à la hausse des anticipations qui étaient beaucoup trop optimistes. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'une hausse, une simple hausse, pricée.
Baisse.
Mais baisse,
un jour une hausse.
Pricée,
hein. Non, mais.
Voilà. Lapsus.
C'était. Lapsus, mais révélateur.
Pas ma pensée. Non, pas
non
du
mais
tout.
D'accord. Non,
pas
mais,
du tout.
Non, mais révélateur de la conversation qu'il y a pu y avoir à un moment dans le marché,
certes,
Franck.
Certes.
Et j'entends tout à fait que ce n'est pas le point central de
votre oui, non, absolument.
Scénario chez Allianz Global Investors.
Je le précise. On a une baisse pricée aux États-Unis. On en a deux. Un petit chouïa de plus du côté BCE. Mais avec une grosse différence quand même. Toujours entre États-Unis et zone euro. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est, ça va être un driver fort de l'ensemble des classes d'actifs, vraisemblablement. Alors certains parlent de divergence, moi je ne parlerai pas de divergence en fait, c'est une désynchronisation. On a une désynchronisation du cycle macroéconomique entre États-Unis et zone euro. Les États-Unis sont à quelques coudées du point bas de leur ralentissement, tandis que le ralentissement en zone euro, on l'a eu déjà en
2020.
On n'est pas du tout sur la même trajectoire, et donc on n'est pas non plus sur la même trajectoire d'inflation. Donc il faut admettre le fait qu'on a une certaine résilience de l'inflation aux États-Unis. Pour nous, tout ça devrait se modérer, donc c'est vraiment une question de timing, mais ça ne remet absolument pas en cause le cycle de baisse des taux qui est à venir.
J'entends.
En zone euro,
oui, parce qu'on se focalise sur le calendrier 2024, mais il faut bien évidemment avoir en tête que les anticipations de baisse de taux, elles se prolongent en 2025. Alors, à quel rythme, etc. Un rythme tous les trimestres, peut-être pour la Fed, peut-être un peu plus pour la BCE, mais tout ne s'arrête pas évidemment à une baisse de taux de la Fed cette année, Franck.
Non, certainement pas.
Dans les anticipations de marché.
Certainement pas. Alors, c'est vrai que les marchés sont un peu court terme. Bon, on n'est pas très étonné par ça. Hein. On est dans un environnement très volatile, notamment sur les données macro. Donc, on a des ajustements qui sont assez brutaux sur des données, mais sur des données qui reflètent le passé également.
Oui, oui.
Et quand on regarde ce qui s'est passé en zone euro cette semaine, ça illustre bien en fait cette focalisation court terme. On a fortement réagi aux chiffres des salaires négociés en zone euro sur le premier trimestre, plus 4,7%. On venait de 4,5% au Q4 2023. 4,7 au Q3 2023. Donc, on a un petit relapse, là. Mais il faut avoir en tête que, d'abord, tout ça reflète des one-off, donc ouais. Notamment des primes.
Ouais.
Des primes qui ont été données en Allemagne et qui contribuent énormément, ouais. En fait, à ce chiffre-là. Et puis, ces négociations salariales au premier trimestre, elles reflètent aussi l'inflation passée. Parce qu'évidemment, ces négociations, elles se basent sur les pertes de pouvoir d'achat passées.
Depuis 2021.
Donc, il faut vraiment s'interroger sur les effets de second tour. Et les effets de second tour, il ne faut pas en avoir trop peur non plus, dans un contexte où l'économie en zone euro est en stagnation plus.
Ouais.
Donc, finalement, le pricing power des entreprises pour compenser ce coût salarial et le coût unitaire du travail, parce qu'on a des gains de productivité négatifs en zone euro, il ne faut pas non plus surestimer ces effets-là. Donc, on est assez serein, finalement, sur le rythme de baisse de taux en zone euro et sur le calendrier, parce que la baisse de 25 BP la semaine prochaine, elle est totalement annoncé.
Oui.
Donc il n'y a pas de débat là-dessus.
Oui.
Oui.
La question étant de savoir ce qui se passe après, Franck. Est-ce qu'on est vraiment dans du meeting by meeting, comme semble défendre François Villeroy de Galhau, en rappelant qu'on ne peut pas dire à la fois qu'on est meeting by meeting et dire que la baisse de juillet, de toute façon, une baisse en juillet serait totalement impossible. Il y a aussi cette forme de contradiction dans le discours porté aujourd'hui par certains membres de la Banque Centrale
oui,
Européenne.
Oui, mais ça, c'est un débat assez classique.
C'est un jeu politique au sein du Conseil des gouverneurs. D'accord.
Mais avec des déplacements de camps, parce que Villeroy de Galhau, qui était plutôt neutre, est plutôt dans un camp assez dovish.
Oui. Bon. Il devient de plus en plus Colombe.
Oui,
j'ai l'impression, au fur et à mesure que le pivot monétaire arrive en zone euro. Sur ces questions monétaires, toujours, et j'aime bien l'idée du disque rayé, effectivement, on reprend un peu les mêmes idées tous les mois ou tous les trois mois. Valérie, est-ce qu'on peut au moins dire que à ce stade, les taux restent canalisés, voir 4,70 sur le 10 ans américain, ou revoir 4,70, c'est pas non plus revenir à 5, c'est pas franchir la limite de 5 qu'on avait atteint à l'automne 2023
On peut pas l'exclure. Hein.
Sur l'horizon 2024
Oui, cette année.
Oui, cette année, j'entends. Cette année, oui, pas pour dans deux ans.
En fait,
ans, quoi.
Je pense que les prochaines réunions, on est à peu près sûr de ce qui va être annoncé comme acte. Mais soit lors des conférences de presse, soit dans la semaine ou les 10 jours qui vont suivre les réunions, des déclarations à droite, à gauche, peuvent encore avoir un impact un peu négatif sur les obligations, sur le prix des obligations. Mais si on a ces décalages un petit peu rapides de dernière hausse de taux, parce qu'en fait, souvent, quand on nous dit qu'on va avoir des baisses de taux, quand la baisse de taux arrive, on peut avoir l'effet inverse, hein, à savoir une hausse sur les marchés en réaction. Surtout si le discours fait qu'on a l'impression que la prochaine baisse, elle est remise à la Saint-Glinglin.
À plus tard.
Donc, ouais. Septembre, on verra ce qui se passe pendant l'été, etc., etc. Si c'est ce type de discours, on peut potentiellement, effectivement, retourner à 5 sur le 10 ans américain. Mais après, je ne sais pas du tout comment ça va se jouer, parce que une baisse de taux, c'est dans l'ensemble 25 bips. Hein, on n'attend pas des baisses de 50 bips. Donc, on a aussi toute la partie sur la courbe qui peut servir d'ajustement. Est-ce que ça serait plutôt sur la partie la plus courte de la courbe qu'on aurait ces 25 points de bip? Mais
est-ce que sur les taux longs, ça aurait beaucoup d'impact?
Ça accompagnerait beaucoup ou pas?
Bonne question.
C'est compliqué parce que sur la courbe des taux, il n'y a pas de tendance en ce moment. C'est complètement stagnant. C'est des mouvements de court terme. Voilà. Donc... à cause de ça aussi, parce qu'on n'a pas une tendance nettement dessinée sur les mouvements de courbe, je pense que même si on allait à 5, ça serait pour revenir assez rapidement en dessous de K70. Ça serait plutôt dans un mouvement extrême et rapide. D'accord. Donc un mouvement de déception pour après
une capitulation,
avoir
quoi, d'une certaine
une
manière.
Une capitulation locale pour 3 mois, 4 mois, qui permettrait de revenir vers la moyenne.
On voit le marché reste quand même très sensible, comme vous le dites, au moindre discours de banquiers centraux. Alors c'était Neil Kashkari hier, la Fed de Minneapolis, qui dit, après la publication des minutes, le compte-rendu de la dernière réunion, où tout le monde semble comprendre que l'idée d'une hausse de taux est écartée, il revient sur le sujet en expliquant que non, c'est pas tout à fait ce qui a été dit et ce qui a été écrit à travers les minutes, et que si besoin, l'option d'une hausse de taux doit pouvoir être à nouveau considérée à l'avenir. Le disque rayé se remet en marche.
Ni pour les investisseurs, ni pour les banques centrales. En fait, tout le monde s'accroche au discours, parce que parce qu'il n'y a rien d'autre.
Les données et le discours des banquiers centraux. Néanmoins, on a quand même cette première baisse de taux qui arrive en zone euro. S'il y en a une, il y en aura deux. S'il y en a deux, on peut imaginer qu'une troisième arrive également à un moment sur la table, etc., etc. Je parle aussi de 2025 qui intègre déjà, les marchés intègrent évidemment une poursuite des baisses de taux à un certain rythme, en tout cas pour 2025. Qu'est-ce que ça change pour la zone euro, pour les actifs européens, pour les marchés actions, Gilles?
Alors, quand on voit ce qui s'est passé là depuis un mois et demi, ça a été assez notable, à mesure que on avait vu au mois d'avril une remontée des taux, et en fait on a vu que à nouveau c'était les valeurs dites value qui avaient repris le leadership sur les valeurs de croissance. Donc effectivement, si on avait effectivement un début de baisse de taux, on pourrait avoir peut-être à nouveau une petite inversion en faveur des valeurs de croissance. En tout cas, c'est ce qu'on a observé depuis maintenant un peu plus d'un an. Là où je pense que ça pourrait avoir un peu plus d'impact, c'est sur des valeurs qui ont été largement délaissées et qui étaient assez sensibles aux évolutions de taux. Je pense aux valeurs des services aux collectivités, qui en réalité font rien depuis maintenant 3 ans, alors même que quand on regarde, elles bénéficient d'un environnement qui n'a jamais été aussi favorable. Les secteurs le secteur du service aux collectivités, généralement, c'est vous traiter avec un régulateur qui va vous permettre d'obtenir un retour sur un investissement donné. Généralement, le régulateur, il est proche du politique, et le politique, il ne veut pas accorder de retour parce que ça ne fait pas bien de monter les prix. Sauf que là, on est aujourd'hui en phase où on a besoin d'investissement, ne serait-ce que pour faire la transition énergétique. Et donc, on l'a vu en Espagne, quand ils ont essayé de remonter les taxes, Iberdrola, qui est
s'ils vont continuer, j'arrête. J'arrête d'investir.
Et le lendemain, ils ont dit bon, on laisse tomber. Et hier matin, le gouvernement espagnol.
C'est une taxe sur les super profits,
a annoncé qu'il revenait sur sa taxe. Donc, on a un environnement pour les services aux collectivités qui n'a. Moi, depuis 25 ans, je n'ai jamais vu ça. Si, alors, il y avait eu ça à la fin des années 90, sur le secteur de l'eau en Angleterre.
D'accord.
Où chaque année, il y avait des windfall taxes. Et du coup, le réseau de l'eau en Angleterre a été pourri. Et ils avaient besoin d'investissement. Et en réalité, on a eu 15 ans d'investissement jusqu'à. Ça devait être jusqu'en 2015, où on a eu toutes les boîtes d'eau qui se faisaient racheter par des fonds private equity.
Ouais,
et bizarrement, quand ils ont fini les investissements, ils ont à nouveau mis des windfall taxes. Donc, je pense qu'on est.
Non, mais. Pour les réseaux, on retrouve ça dans les télécoms, dans toutes les infrastructures.
Je pense que pour les infrastructures électrique aujourd'hui, on est dans cette phase, ce moment historique, où on a besoin d'investissements. Ces investissements, ils vont supporter une croissance des ventes, ils vont permettre une croissance des bases d'actifs, mais donc des résultats par action de l'ordre de 4 à 5%, tout en générant un dividende de 5%. Donc ça, c'est des titres qui n'ont rien fait depuis 5 ans, ou 3-4 ans, je regarde Iberdrola. Et je pense qu'aujourd'hui, on a très clairement une autre opportunité là-dessus. L'autre segment qui me paraît intéressant, c'est le segment des small caps qui se traite avec une décote de l'ordre de 6% sur les large caps, qui est la plus forte décote depuis la crise financière de 2008-2009, qui là aussi pourrait bénéficier d'une amélioration des conditions de financement. De manière intéressante, ce qu'on peut voir quand même, c'est que depuis le début de l'année, on a eu un redémarrage des opérations de délisting.
Ah oui.
Je regardais, je crois que sur le seul marché italien, je regarde un peu plus près, on était déjà une demi-douzaine.
D'opérations de retrait de cote. D'accord.
c'est quand même un signe qu'il y a sans doute des valeurs qui sont perçues comme sous-valorisées. Donc voilà, ça c'est deux éléments qui pourraient deux segments qui pourraient susciter un retour d'intérêt.
Des indices small qui reviennent là sur la période de quelques mois, qui reviennent au contact des performances qu'on a pu accumuler sur des indices large cap.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui pourrait retrouver effectivement un peu d'intérêt. Et en plus, généralement, c'est aussi des valeurs qui sont plus sensibles à l'amélioration des PMI. Donc voilà, on a une conjonction qui fait.
Non, mais ça laisse des opportunités quand même.
On a des opportunités. Oui, pour et toujours en étant un peu sélectif, parce qu'effectivement on reste dans un environnement incertain, bien sûr.
Sur les utilities, j'ai vu que vous aviez écrit il y a quelques jours utilities game over, Valérie.
Oui, mais plutôt
c'était un peu provocateur.
En tout cas, oui, chercher un titre.
Oui, non, mais on est bien soumis à ça, je sais bien. Mais du coup, il y a quoi derrière ce game over
On a eu un rush, effectivement, mais moi j'appelle ça du court terme, c'était quelques semaines, un mois, je ne sais plus. Effectivement, un mouvement de taux, les prix de l'électricité qui ont un tout petit peu rebondi. Mais on a quand même des prix de l'électricité qui restent très très bas. Il faudrait que ça remonte un petit peu pour que ça s'améliore aussi. Et pour le moment, on a franchi, si on regarde vraiment techniquement, on n'a rien franchi d'un point de vue de moyen terme comme niveau qui permet de penser que c'est terminé. Alors, moi, je suis bien d'accord, mais le fondamental, je ne peux pas travailler avec parce que je ne sais pas travailler avec, mais je vois bien l'intérêt stratégique des utilities, je ne peux qu'acquiescer. Cela dit, ce type de situation, d'expérience, parfois, on peut stagner encore pendant un an avant que les choses se déclenchent. C'est peut-être un mois, c'est peut-être un an, j'en sais rien. Moi, je ne peux pas dire à mes clients pour le moment, et dans mes portefeuilles modèles, je ne mets pas encore de utilities et certainement pas de renouvelables, alors que ça chatouille, je les surveille depuis longtemps.
Le solaire commence à rebondir quand même aux États-Unis.
Mais pour le moment, ce n'est pas, pas suffisant. D'accord. Et en plus, c'est des trucs qui ont un levier tel quand ça démarre que vraiment, il ne faut pas avoir peur de louper les 15 premiers pourcents. Les 15 premiers pourcents. Il faut laisser passer.
Un peu plus, des First Solar, des Nextera, ça rebondit plusieurs dizaines de pourcents.
Les 15% autour de la zone de signal.
D'accord, ok.
Autour de la zone, pas par rapport au point bas.
D'accord,
par rapport
d'accord.
Au point
parce qu'on est déjà à 30, 40, 50, 60% là pour certains.
Tout à fait. Non, mais on est dans la zone là où il faut laisser faire.
Ok.
Prendre son temps parce que voilà.
Et attendre un signal clair, effectivement.
Et attendre un signal clair parce que quand on l'a, on en a pour plusieurs mois. Donc après, c'est simple.
Quoi. Oui, après, on dort dessus. Ouais. Franck, je reviens au 6 juin, Banque Centrale Européenne. Et comment vous anticipez la communication, le discours ? On comprend que c'est un peu tôt pour que la BCE s'engage sur un chemin de baisse de taux, mais la pression va être forte, j'imagine, au fur et à mesure que le temps va passer. Comment est-ce que vous voyez se dessiner ce cycle de baisse de taux ? Et est-ce que quelques baisses de taux font un cycle de baisse de taux ?
Oui, non, on est très confiant là-dessus, parce qu'on est très confiant sur la trajectoire
de l'inflation
en zone euro. Et je pense que il y a quelque chose qui est très important en fait dans les meetings de juin, que ce soit du côté Fed ou BCE, c'est la mise à jour des prévisions macroéconomiques des banques centrales. Parce que la mise à jour de décembre avait quand même marqué les esprits. Et ça avait participé d'ailleurs à entretenir ce mouvement très très optimiste de baisse de taux à venir. Pour la première fois, on voyait des banques centrales mettre 2% cible d'inflation à moyen terme. Donc pour la BCE, c'est en 2025. Elle avait 2% d'inflation dans ses projections en 2025. Donc là, ça va être très intéressant de voir à la fois la mise à jour des prévisions de croissance et d'inflation de part et d'autre de l'Atlantique. Ça va être un point d'ancrage sans doute fort pour les marchés, sachant que quand vous regardez les swaps d'inflation, les investisseurs ne doutent pas de la capacité des banques centrales à atteindre l'objectif. La seule question, c'est le
timing. En Europe et aux États-Unis.
En Europe et aux États-Unis. Oui. Donc ça, c'est toujours intéressant de voir ça, en fait. On a ces surprises en termes d'inflation, d'un point de vue macroéconomique, aux États-Unis surtout. Des surprises, voire légèrement positives, en zone euro. Et les anticipations d'inflation, elles restent extrêmement stables. Donc, en fait, les investisseurs ne doutent absolument pas de cette capacité des banques centrales à atteindre et remplir leur mission. Donc, grosse question de timing. Évidemment, impossible pour la Banque Centrale Européenne, à ce stade, de délivrer une feuille de route. La feuille de route, elle va être extrêmement générale. Nous allons accompagner la baisse de l'inflation quand nous aurons le confort nécessaire pour baisser les taux. Donc c'est le discours à attendre. Moi je pense que tout de même, le fait d'enclencher le cycle de baisse des taux est un élément important. Ce sera derrière nous. Là, on a tiqué une case, c'est derrière nous.
Ça veut dire qu'on est prêt à en faire d'autres. Mais à partir du moment où on enclenche le mouvement, c'est qu'on s'attend à en faire d'autres derrière.
Et ce qu'on a en tête, hein, c'est ce que nous dit le marché d'ailleurs.
Ouais, 2-3 quoi, possible 2%. Cette année.
C'est 2%, la BCE va aller
à 2%. Le taux terminal est à 2%.
Le taux terminal à 2%, fin 2025, début 2026, quelque chose comme ça. Ouais. Et ça, ça va être un support fort.
Ça veut dire 200 points de base de baisse de taux, hein, si on prend le taux de dépôt à 4% comme référence, taux directeur effectif aujourd'hui.
Ouais, c'est ça. Et plus aux États-Unis. Parce que le point haut est. Enfin, le point de départ est encore plus haut. Donc, États-Unis, on les voit entre la Fed atterrir entre 2,5 et 3%. Donc, c'est 250 à 300 points de base de baisse de taux à venir sur les deux prochaines années.
Ouais. Cette désynchronisation, à partir de quel moment la BCE a besoin quand même que la Fed se mette en route également pour pouvoir poursuivre sereinement ses baisses de taux et pas être obligé de s'attacher à des considérations autour de la devise, par exemple.
Alors, je pense qu'il y a un élément qui n'est pas dans les marchés aujourd'hui, c'est la possibilité des banques centrales d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Et ça, ce n'est pas dans le marché aujourd'hui.
Non, parce qu'on est dans la phase de correction des excès, comme vous disiez, fin de cette phase de correction.
Il ne faut pas oublier qu'on a eu des pas de 50 BP.
Oui, à la hausse. Bien sûr, 75.
Pourquoi, oui. Et pourquoi n'aurait-on pas des pas de 50 BP
si besoin.
À la baisse. Ouais. Une fois que la confiance des banquiers centraux sera telle dans la trajectoire de l'inflation, si vous voulez, on ne peut pas justifier aujourd'hui le caractère restrictif de la politique monétaire si on est vraiment confiant dans la décrue de l'inflation. Aujourd'hui, on est dans du passive tightening aux États-Unis. On a des taux monétaires à 5,5, on a une inflation qui décélère, donc on est toujours dans un resserrement passif des conditions monétaires, qui ne se justifie plus. Donc, manque encore vraiment ce degré de confiance, on n'est pas loin à notre avis, et là, on ne serait pas du tout étonné de voir des anticipations de 50 BP se cristalliser.
Se former à un certain point. Oui. C'est un peu, alors ce que là je cite Philippe Lane, chef économiste de la Banque Centrale Européenne, mais c'est un peu l'idée qu'il a défendue là, dans sa dernière prise de parole, dans son entretien au FT. Plus on va maintenir ce niveau de restriction monétaire longtemps, plus on sera peut-être obligé, dans la phase de détente, d'aller vite et fort.
Oui.
Parce qu'on sera obligé de réagir.
Oui.
À des dommages économiques.
Et ça, c'est un soutien très important.
Des cicatrices qui auront peut-être été laissées par ces niveaux de restrictions monétaires. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Sur le plan des devises, est-ce que ça peut provoquer des mouvements importants au final ou pas tant que ça, s'il y a cette forme de resynchronisation à un certain stade, en tout cas entre la Banque Centrale et la Fed la Banque Centrale Européenne et la Fed.
Ça peut être baissier dollar, hein, parce qu'on.
Quand même, c'est d'accord.
La BCE ne nous a pas habitués à l'héroïsme.
Attendez, le 6 juin, elle va prendre son... Et le 6 juin est une date d'héroïsme historique, on va dire comme ça. Mais elle prendra son indépendance ce jour-là, quand même.
Oui, oui.
Après 25 ans d'existence.
Archi-annoncé, bien préparé.
Oui, mais il fallait quand même le faire. Oui. Bon, et donc, vous avez plus de doutes sur le... La BCE reste structurellement au quiche et la Fed reste structurellement de viche.
Dans une construction de portefeuille, investir aujourd'hui sur du 2 ans Treasury à 4,95, ce n'est pas une grosse erreur.
D'accord.
Voilà.
Et ça, ça m'amène cette question. Qu'est-ce qui va se passer une fois que les premières baisses de taux auront été délivrées pour tout ce qui a été parqué sur du monétaire, sur des produits de taux très courts, sur des comptes à terme dont la rémunération est fixée par les taux de dépôt des banques centrales, qu'est-ce qui va se passer avec cet argent-là? Est-ce qu'il y a des flux qui vont se mettre en place?
Les flux sur l'obligataire, ils sont modestes, en fait. Hein. Ils sont relativement modestes, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cet attrait du monétaire, attrait des dépôts à terme, des comptes à terme. Et je pense que ça, c'est un facteur de soutien aussi très très fort sur l'obligataire, mais à venir. Ça va pas être immédiat, mais on le voit aussi hein, dans les fonds à maturité. Il y a eu un appétit énorme dans le marché sur les fonds à maturité. Ouais. Et c'est pas idiot du tout, parce que là, vous cristallisez pendant 4 ans un taux de rendement, si on n'a pas de défaut dans le portefeuille, qui est très compétitif par rapport au monétaire aujourd'hui. Mais si on se projette sur le monétaire en moyenne sur les 5 prochaines années, je pense que là, ça fait du sens.
Ouais. Sur les devises, est-ce qu'il y a une volatilité particulière à signaler? Est-ce que ça a été à un moment, un des arguments en tout cas indirects de la BCE, de s'inquiéter, j'allais dire, du risque de décalage de l'euro par rapport au dollar si on commençait à baisser trop vite, sans attendre la Fed, etc. Bon, ce moment-là est un peu passé, mais l'euro finalement a plutôt bien tenu et c'est même plutôt un peu réapprécié quand même ces derniers temps.
Oui, enfin, il ne se passe rien sur les devises. D'accord. Enfin, sincèrement, il y a plein de marchés sur lesquels il ne se passe absolument rien.
Non, mais c'est-à-dire que ce n'est pas, un sujet brûlant pour les banques centrales.
Ah, bah, je ne sais pas si ça les brûle. Enfin,
au Japon, peut-être. Au Japon, peut-être.
Oui. Mais à part ça, à la rigueur, les Suisses, un petit peu un moment, mais ça va mieux.
Oui. Bah, depuis qu'ils ont baissé les taux, oui.
Mais. Mais sinon, non, il n'y a pas, se passe pas grand-chose. Enfin, sur les grosses devises des marchés, des économies très développées.
Et le yen, c'est, enfin, je sais pas, ça commence à devenir attirant, intéressant.
Moi, je me méfierais quand même parce que à la fin d'année dernière, il y avait une opportunité pour, à la rigueur, qu'il se passe quelque chose, que le yen se renforce, mais on l'a loupé. Donc là, maintenant, ça peut, on ne sait pas, enfin, ça peut durer très longtemps.
Le yen faible à ces niveaux-là, ça peut durer très longtemps encore, quoi.
Écoutez, bon, je ne peux pas vous dire autre chose parce que. On est en plein dans une phase de baisse, on fait record sur record, je ne vais pas me mettre en face d'une marée qui ne cesse de monter. Enfin, c'est contraire à ma foi.
Ah ouais. Sur ces considérations, je ne sais pas s'il y a des commentaires à apporter, Gilles. Je voulais peut-être bien qu'on dise, vous évoquiez le M&A tout à l'heure sur les small et mid cap. Ouais, beaucoup d'opérations autour des matières premières quand même. Alors bon, BHP sur Anglo... Et dans la banque, oui. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la banque ?
Il y a eu BBVA sur sa baleine.
Oui, effectivement, oui. Qu'est-ce que ça nous dit alors ? Ça reste domestique pour l'instant.
Ça reste domestique, mais je pense que c'est intéressant parce que ça vient souligner une chose, c'est qu'aujourd'hui, si on grossit un peu le trait, une banque, c'est une structure IT avec une structure de compliance.
Oui.
Et là-dessus, vous devez mettre le plus de clients possible pour avoir du levier opérationnel. Et donc, ça plaide pour avoir une consolidation... un peu plus importante, et donc il y a les pays qui restent encore assez fragmentés, ils ont la nécessité de consolider. Et quand on regarde la carte de l'Europe, il y a une corrélation assez forte entre le niveau de concentration des marchés et le niveau de profitabilité dans ces marchés. Les marchés scandinaves sont beaucoup plus profitables
avec une poignée de grandes banques, quoi.
Avec une poignée de grandes banques.
Ouais.
Et somme toute, on peut penser ce qu'on veut, ne pas apprécier les banquiers, mais c'est quand même important d'avoir un marché bancaire solide.
C'est essentiel, oui.
Parce que ça permet de financer l'économie. Donc, ouais. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut...
Et ça peut aller au-delà des frontières, parce que vous ouvrez le sujet. Moi, je repars sur l'entretien Macron, l'idée que si on est européen, il faut accepter des fusions transfrontalières, y compris si c'est une de ces banques domestiques qui est la cible d'une autre banque, etc.
Pour que ça puisse aller complètement au-delà des frontières, il y a effectivement la nécessité d'avoir une union bancaire. Maintenant, il y a quelques banques qui sont déjà dans plusieurs pays. Et pour ces banques-là, ça peut être intéressant de renforcer leur part de marché local. Ça ne sera pas des grandes fusions transfrontalières ou aller entrer dans un nouveau pays. Mais ça peut être de renforcer sa présence sur un marché sur lequel on est déjà présent.
Des pan-européens qui se développent quand même.
Parce que vous avez quand même besoin de renforcer cette densité, justement.
D'accord.
Mais je pense que c'est encore un peu tôt pour avoir des grandes opérations transfrontalières. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas arriver. Mais parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez plus... d'éléments de vent contraire parce que vous avez des surcharges en capital et vous n'en avez pas les bénéfices puisque vous n'avez pas le bénéfice d'avoir les dépôts
un cadre réglementaire unifié parfaitement.
C'est encore un peu tôt pour ça, mais...
Et ça reste un secteur à privilégier en matière d'investissement, les actions bancaires. Ça reste un des secteurs leaders qui a peut-être pas perdu de force d'ailleurs par rapport à d'autres.
Quand on regarde la valorisation du secteur bancaire, elle reste plus proche de ses plus bas historiques,
oui.
Malgré la performance,
ouais.
Et avec un dividende annoncé, avant donc les rachats d'actions, entre 8 et 10%. C'est sans doute trop élevé, sauf à penser que c'est pas soutenable. Ce qui laisserait penser que c'est pas soutenable, c'est si on pensait que effectivement les taux devaient retourner à zéro et qu'on perde tout l'avantage et tout le bénéfice de cette marge d'intérêt qui est revenue. Je pense qu'aujourd'hui, plus personne ne pense qu'on va retourner à zéro.
On va à deux, pas à zéro.
Donc on va retrouver la capacité à générer des marges d'intérêt. Et de ce fait-là, il y a sans doute une amélioration de la rentabilité qui est pérenne, des dividendes qui sont soutenables. Et donc, de ce point de vue-là, les banques ont encore sans doute un petit potentiel d'appréciation. Parce que, historiquement, quand on prend le niveau de valorisation en termes de multiples gros bénéfices, on est plutôt sur 8-9 fois et on traite encore plutôt à 6-7 fois.
D'accord.
Et ce qui explique pourquoi on a des dividendes à plutôt...
C'est élevé, ouais.
Donc il y a sans doute encore un petit peu d'ajustement à faire.
D'accord avec l'idée que le secteur bancaire reste un secteur fort, leader, et qu'il faut, si on en a, autant continuer de l'accompagner.
Mmh. Ouais. Ouais, enfin, c'est la tendance la plus forte, effectivement, qu'on ait eue depuis 2 ans. Un an et demi.
Ouais, sectoriellement parlant, ouais, bien sûr.
Sectoriellement parlant, donc il faut continuer. C'est stupéfiant hein, quand on regarde, je sais pas, certaines banques italiennes, par exemple.
Ah, mais c'est des parcours, c'est des fusées, quoi.
Ouais, c'est des fusées, mais en même temps, effectivement, il y a un tel rattrapage à faire que.
La seule raison qui viendrait invalider ça, et ça poserait d'autres questions, c'est si on avait une détérioration massive de l'économie, parce qu'on aurait une remontée du coût du risque.
Oui.
Mais ce n'est pas ce qu'on voit. Donc,
dans un scénario récession, voilà. Ce n'est pas toujours un bon véhicule d'investissement, effectivement. Mais bon, le point bas en zone euro est passé. On est plutôt en train de redécoller un peu. Un mot pour conclure avec vous, Franck, peut-être de l'univers du crédit. Est-ce qu'il y a des événements particuliers à signaler? Est-ce que le marché reste bien orienté? J'ai vu qu'on avait atteint en un temps record, c'est-à-dire du 1er janvier à aujourd'hui, le montant de 1 000 milliards d'euros ou de dollars, je crois, émis en zone euro et absorbés par les marchés. Ça va plus vite que d'habitude, quoi.
En fait, le crédit a apporté dans le portefeuille ce qu'on attend de lui, donc du carry, donc du rendement, qui a permis d'absorber en fait la hausse des taux. Quand vous regardez les performances depuis le début de l'année, un indice Euro Aggregate, donc représentatif de l'ensemble des marchés des taux en zone euro, il est négatif d'à peu près moins 1,6%. Le crédit fait zéro, le crédit investment grade est zéro, donc on n'a rien perdu, mais le carry a amorti la hausse des taux, donc la dépréciation des prix. Par contre, le high yield est à 2,6%, et si vous êtes un peu plus courageux, vous avez du high yield chinois, double digit, hein, c'est plus 12% de performance. Ouais. Et ce qu'on voit, ça c'est quelque chose qu'on avait anticipé dans nos portefeuilles de Lobo, le high yield asiatique en général est à peu près à 9% de performance depuis le début de l'année. Hein, ouais. Hard currency, donc en dollars.
Ouais.
Et ce qu'on anticipe, c'est vraiment une continuation de la normalisation des taux de défaut en Asie. Parce qu'on a eu 2 années absolument terribles. En Chine.
Donc à l'inverse de nous, eux, les taux de défaut ont explosé et donc ils doivent revenir à des niveaux plus bas.
Ça, c'est un moteur extrêmement puissant
Je comprends.
Et qui a très très bien marché sur le crédit.
Et nous, est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'effectivement, pendant toute une période, on a mis un couvercle un peu sur le risque de défaut? Est-ce que ça peut être un risque pour des marchés développés?
On est positif. Enfin, Moody's a déjà revu à la baisse ses perspectives de défaut sur 2024. Ah ouais. Et nos analystes font le travail, donc c'est vraiment un exercice bottom-up. Hmm. On a entre 2,5 et 3% de taux de défaut. D'accord. Donc on est sur des normes historiques, plutôt même en zone basse. Donc on est plutôt bien.
Ouais. Bon, rien d'anormal donc de ce point de vue-là. Non. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Valérie Gastaldi, Day by Day et Gilles Guibou, AXA IM.